I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'adore cette résilience qu'ont les enfants de s'approprier des scénarios de la vie comme étant la vie. C'est pareil avec le divorce. J'ai divorcé de sa maman très tôt. Il avait 3 ans et donc il s'est forgé une identité où ses parents sont séparés. Et ça, c'est la vie. C'est pas quelque chose qui aurait pu être autrement. C'est sa vie, elle est comme ça. L'effondrement ou la guerre en Ukraine, le manque de ressources, c'est la vie, elle est comme ça et il va faire avec.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify, et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Je suis très heureux de faire ça avec toi, Pedro, parce que c'est vrai que j'ai revu hier ton discours, qui t'a fait connaître en fait au monde.
Ouais,
qui a été un buzz que tu as fait devant.
Dingue.
Alors attends, l'université de Louvain, c'est ça, devant les étudiants en ingénierie à la fin.
Ouais, Polytech.
Ouais. Où tu, enfin, c'est un discours qui a un peu fait le tour de l'internet, parce que tu, c'est un discours un peu inspirant parce que tu dis aux gamins, en fait, faites gaffe à ce que vous faites de vos vies, faites gaffe au temps que vous allez passer au sein de votre existence. Faites attention à votre boulot, au boulot que vous choisissez, faites attention à globalement ce que vous faites, quoi. Toi-même, t'es ingénieur de formation.
De formation.
Et t'es artiste aujourd'hui, artiste photographe. Et tu fais une vanne d'ailleurs en disant, écoute, c'est vraiment le pire investissement qu'on puisse faire pour les parents.
Le pire cauchemar des parents. Ils ont... Parce qu'en plus, je suis docteur en sciences appliquées, c'est un bac plus 9, j'ai passé 9 ans... Tu t'imagines, j'aurais dit ça à mes parents au début. Ouais, je vais faire 9 ans d'études, mais à la fin, je vais plutôt être artiste, tu vois. Si je leur avais dit ça, je pense qu'ils auraient quand même cédé et me laissé être artiste tout de suite.
Putain, c'est ouf, hein.
Ouais.
Mais c'est intéressant parce que sans doute, à l'époque, t'étais sur des rails et que.
Mais oui.
Qui étaient peut-être d'ailleurs transmises par tes parents ou tu projetais un truc de ce qu'ils attendaient de toi, quoi.
Ouais.
Et en fait, en revoyant ce discours, je vois que tu parles de tes enfants et je me dis non, mais en fait, c'est évident. On était parti pour faire une histoire de succès. Peut-être qu'on le fera plus tard, hein, tu vois, mais pour parler de ta carrière et de ce que tu as fait. Mais en fait, en vrai, je voudrais parler de parentalité avec toi, de paternité, quoi.
Ouais, ouais.
T'as deux garçons.
J'ai deux garçons.
Ouais. Qui ont quel âge ?
Qui ont un grand écart entre les deux parce qu'ils ont deux mamans différentes. Voilà, du fait que j'ai deux vies, presque deux vies différentes aussi. Donc, ils ont 6 et 14.
Ok. Ce qui n'est pas non plus...
Non.
Fou,
c'est,
quoi.
C'est fou. C'est pas fou et à la fois, ça me montre deux temps de vie comme ça, en parallèle, tous les jours. C'est très beau, je trouve.
T'as 45 ans aujourd'hui ?
Ouais.
Et ça m'intéresse parce que j'aimerais bien parler avec toi de ce qui t'a... donner envie ou ce qui t'a donné envie de refaire un enfant 8 ans après. Donc au-delà, tu vois, du fait d'avoir rencontré, j'imagine, une nouvelle femme avec qui t'avais envie de fonder une famille.
Ouais.
Mais avant ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir parent, de devenir père.
Ça, c'est une colle. ça fait 2 ans, on me pose beaucoup de questions, mais celle-là, jamais. Et c'est ça qui est hyper confortable dans ce que je fais maintenant, c'est que toutes les questions qu'on me pose, on me les a déjà posées. Ouais. Après 2 ans, j'ai toutes les réponses à tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, c'est hyper confo. Ça, j'avais pas. Mmh. Ça, j'ai pas comme réponse. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être parent? Je pense que ça nous dépasse. Je pense que...
Ça, t'as l'impression que ça t'a dépassé, en tout cas?
Je veux dire, pas que ça vient de quelque chose d'inexplicable. Tu vois, dans le livre, je dis qu'il y a... J'invite un peu à cette introspection. Je parle dans le discours, je dis à tous ces jeunes qu'en fait, ils doivent arrêter d'écouter tous ces vieux cons qui nous ont mis dans la mouise. Arrêter d'écouter ces gens qui se sont autoproclamés, des gens qui savent, enfin les gens qui sont dans les estrades, comme moi j'étais ce jour-là, je suis sur une estrade, arrêtez de m'écouter, arrêtez les gens. Vous avez tout en vous, moi je vois la jeunesse, mais je vois mes enfants, ils ont tout en eux, ils ont déjà tout compris. Et c'est pour ça que je trouve un peu dommage cet élan que l'on a aujourd'hui, légitime, hein, que je comprends, de faire moins d'enfants, parce qu'on ne veut pas leur infliger ce monde qu'on a construit. Et à la fois sans ça, je sais pas si tu as vu, moi je sais que tu es cinéphile comme moi, et donc tu auras sûrement vu Children of Men.
Oui, les fils de l'homme.
Fils de l'homme, oui. Et qui montre une société stérile, au propre comme au figuré. Une société qui ne fait plus d'enfants, et les conséquences dévastatrices, psychologiques, spirituelles que ça a dans l'humanité, le fait de savoir qu'il n'y a pas d'avenir. Réel, il n'y a réellement pas d'avenir parce qu'on ne fait plus d'enfants. Dans ce cas-là, c'est une science-fiction et c'est une maladie voilà, qui fait qu'on ne peut plus avoir d'enfants. Mais ça montre, enfin, ce que moi je ressens, c'est cet élan de vie. Enfin, c'est de la vie au sens littéral du terme. Un enfant, c'est la vie, quoi. On ne peut pas priver, on ne peut pas. C'est mon avis, je trouve ça triste. Et à la fois, je trouve ça légitime, hein, les gens qui décident de ne pas en avoir. Mais je pense que c'est la force vitale qui, sans vouloir à nouveau leur poser sur les épaules ce poids d'être nos sauveteurs de l'avenir, je pense qu'ils n'ont pas ça. Et c'est ça que je vois chez mes enfants et que j'adore. C'est cet élan de vie et de réparation sans jugement. Tu vois, moi, le grand, je lui parlais du collapse il y a très longtemps parce qu'il se fait, je ne sais pas si tu vois, Pablo Servigne et la collapsologie. Ouais. À l'époque, j'ai fait un TEDx qui parle du pouvoir du groupe où je discute et je présente ce groupe de réflexion qui m'avait beaucoup aidé à faire ma transition personnelle. Et dans ce groupe de réflexion, Pablo, qui est belge, il était venu très tôt nous parler de ce livre qui n'existait pas encore à l'époque, de son manuscrit avec son co-auteur.
Pablo Servigne, en gros, lui, il explique un petit peu ce qui va se passer. Il parle d'une société post-effondrement qui est une théorie, en fait, hein, qui existe. Juste pour remettre un peu de contexte pour les gens, quoi.
Oui, et qui est en fait de plus en plus proche de ce que nous vivons aujourd'hui. Mmh. Hein, c'est une société où il y a de moins en moins de pétrole. C'est pas du tout de la science-fiction. Hein, c'est ancré dans le réel et dans des faits scientifiques. Il est à la base chercheur. Et il se pose, et il repose sur le dossier de Rome. C'est un fascicule qui avait été écrit dans les années 70 ou 80, mais c'est des gars du MIT. Donc vraiment, c'est des trucs qui étaient faits avec, à l'époque, des supercomputers qui avaient tourné pendant des années pour faire des modèles et qui montraient que plus ou moins maintenant, ou d'ici 2030, on rentrait dans une phase d'effondrement. L'effondrement de la société, des ressources naturelles, des énergies fossiles, et que tout ça allait entraîner peut-être des guerres, des changements climatiques, et tout ça, un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc ça, j'en parle à mon fils depuis très longtemps. À l'époque, ça fait 10 ans, il en a 14 maintenant. Et donc, ça m'a vraiment frappé de voir à quel point ça ne l'effrayait pas. Parce qu'il le savait depuis tout petit. Donc, ce qu'il voit aujourd'hui, ça ne l'effraie pas parce que j'adore cette résilience qu'ont les enfants de s'approprier des scénarios de la vie comme étant la vie. C'est pareil avec le divorce. J'ai divorcé de sa maman très tôt. Il avait 3 ans. Et donc, il s'est forgé une identité où ses parents sont séparés, et ça, c'est la vie. C'est pas quelque chose qui aurait pu être autrement. c'est sa vie, elle est comme ça. L'effondrement ou la guerre en Ukraine, le manque de ressources, c'est la vie, elle est comme ça, et il va faire avec.
Et donc, toi, tu parles de collapsologie à ton môme depuis qu'il a 4 ans, ce qui est un vrai choix éditorial, entre guillemets, tu vois, vis-à-vis de tes mômes.
Oui. Ouais.
Ok. Ça te fait pas peur de lui générer des peurs, justement, et je pose la question de façon un peu... Je sais que c'est une question qui revient très souvent chez pas mal de parents.
Oui, ça revient chez les parents aussi.
Tu parles pas mal de peur, hein, dans ton livre, Mathilde
oui.
Claire. Hein.
Oui, moi je pense que nommer les choses, ça avive certaines blessures, mais ne pas les nommer, ça les fait pourrir, les blessures. Ça les fait suinter, là, tu vois, les trucs qui sont pas pris. Pouvoir les nommer, parce que si moi je leur en parle pas, ils vont de toute façon en parler, ouais. À l'école, au journal... Ils vont en parler, donc autant que l'on en parle d'une façon cadrée. De plus que dans mon cas, j'avais vraiment des infos de première main. Et on en a parlé entre adultes très très longtemps. Donc ce sont, je pense, des opinions voilà, qui ont été déjà digérées. On a parlé déjà entre nous de comment est-ce qu'on en parlerait à nos enfants. Donc le choix des mots est important. Donc oui, moi j'en ai parlé avec lui et je me suis toujours... c'est difficile d'être optimiste quand on parle de collapse, mais je me rappelle en tout cas d'un jour où lui m'a posé la question, très clairement, il doit avoir 10-11 ans, et il me dit, mais papa, c'est pas clair pour moi, toi, le collapse, tu crois que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Tu vois, parce que c'est ça en fait, le collapse, c'est pour moi les deux, il y a un effondrement qui va être douloureux, et à la fois, c'est un renouveau. On est en train de voir mourir une forme de société qui était basée, en effet, sur les énergies fossiles, sur les rapports de force, sur les dominations, sur les non-respects, sur tout ce qui est matériel, en fait, tout ce qui n'est pas subtil et fluide et invisible. Et la bonne nouvelle là-derrière, bon, évidemment, on va tous beaucoup souffrir, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une traversée vers quelque chose qui est nouveau. C'est un renouveau, c'est un déploiement, c'est un... Moi, je parle dans mes conférences d'une nouvelle société, d'une transition vers une nouvelle société. Et ce n'est pas repartir de zéro, c'est agrandir, élargir les parois de cette société qui a un cœur qui est resté au niveau du matériel. Et on va les rendre poreuses, ces parois, on va les élargir pour faire une société qui est plus ample, qui englobe plus, qui englobe nos besoins de liens, nos besoins de liens avec le vivant, avec les animaux, tu vois, avec la planète... donc voilà, sa question m'a illustré la façon dont moi je viens de parler de ce truc qui fait à la fois peur et à la fois est une belle occasion de renouveau.
Et alors, malgré tout ça, malgré le fait de connaître tout ça, tu t'es dit donc il y a 8 ans, tu avais 37, 38 ans. Ok, en fait, on va faire un deuxième enfant. Non, mais c'est un vrai choix, comme tu. C'était une vraie réflexion de ta part, de votre part, j'imagine.
Non, honnêtement, c'est pour ça que je dis que ça nous dépasse, c'est que je n'ai pas le souvenir d'avoir fait une réflexion là-dessus. Ça a vraiment été un élan d'amour.
Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est... T'as l'émotion là qui vient ?
Ouais,
c'est une petite émotion. L'émotion, bah, c'est pas grave, hein, tu sais.
Non, c'est parce
j'ai l'impression que t'allais éternuer en fait, t'es retenu, je me suis dit let's go Pedro, vas-y.
C'est marrant, tu vois, c'est une question qu'on m'avait jamais posée et j'ai eu ce souvenir très fort qui est revenu maintenant d'un coup.
Okay.
Et maintenant je sais répondre, ça c'est un belgicisme, je peux répondre à cette question là parce que j'ai ce souvenir magnifique qui me revient, c'est je suis ému à nouveau. C'est cette nouvelle femme que j'ai rencontrée il y a 10 ans, ma femme aujourd'hui, Valérie, qui a été rencontrée après avoir fait ce que j'appelle cette révolution intérieure, de me connaître vraiment. Dans le livre, je dis comment pouvoir choisir la personne avec laquelle on va passer notre vie si on ne se connaît pas soi-même. On ne peut pas savoir qui nous correspond. Et je pense qu'au moment où j'ai rencontré Valérie, je savais... qui j'étais, et elle aussi, elle savait qui elle était. On s'est rencontrés à ce moment où tous les deux, on s'était remis en question, et on s'est rencontrés, c'était super beau. Et ça allait encore. Et un jour, Et un jour, je l'ai regardée, je me suis dit, je lui ai peut-être dit aussi, je la trouve tellement admirable et magnifique que je veux qu'il y en ait plus comme elle sur Terre.
Tu veux la multiplier, c'est
voilà.
Ça
et je me suis dit, je crois que c'est de là qu'est partie l'envie de faire un enfant avec elle, oui.
Ok. Waouh, j'ai plein de... j'ai plein de questions à te poser. C'est-à-dire que tu t'es dit à un moment donné, ok, c'est important pour moi de fusionner avec cette personne, c'est ça?
Oui.
Ouais, ok.
Oui, je la trouve incroyable, magnifique. Je veux qu'il y ait plus de gens comme elle sur Terre. Et quand je vois le fils qui en est sorti, je me dis, c'est exactement ça. C'est génial, ce gosse, mais c'est une force de la nature. Et il est à la fois... Parce que lui, voilà, il est arrivé encore après, le premier. Et donc, c'est peut-être que je redécouvre et que c'est plus proche de moi, mais je revois à nouveau cet élan de reconstruction. Parce que lui, voilà, on en parle encore plus fort avec lui, parce que maintenant, c'est dans nos rues, c'est dans notre jardin, c'est dans la télé. Tout ce que je disais à l'un d'une façon un peu théorique, à l'autre, je dois même plus lui dire, c'est partout. Et il est venu avec cet élan, comme je disais, de voilà, c'est ma réalité et je vais devoir faire avec, mais c'est un élan de reconstruction malgré tout. C'est pas moi qui dois lui dire tu dois sauver quoi que ce soit, j'ai pas du tout envie de lui imposer ce rôle du sauveur, mais il a en lui, sans de façon très juste, sans rancune, sans colère, parce que lui, il a pas connu le passé, il voit juste le merdier aujourd'hui, et donc il voit juste, ok, ça il faut, ça va pas, ça il faut nettoyer, ça il faut sauver.
Il a 6 ans. Ça s'exprime comment quand à 6 ans, cet élan là?
Ça s'exprime dans le fait de toujours vouloir dire que quand il sera grand, il veut sauver les animaux. Moi, quand je serai grand, je vais avoir des pistolets qui ont des fléchettes endormissantes et je vais sauver les animaux. Et alors, avec ces fléchettes, je vais aussi tirer sur les gens qui font du mal sur les animaux. Et les arbres, ils passent des journées entières accrochés aux arbres. À chérir vraiment le moindre minuscule insecte. C'est vraiment une espèce de fascination pour le vivant sous toutes ses formes qui moi, me fascine à mon tour. Ouais.
Comment tu as appréhendé ces deux paternités très différentes? J'imagine que t'es pas le même à... Donc, tu avais quel âge? Un peu plus de 30 ans, c'est ça? À peine 30 ans, quand ton premier est né, et presque 40 quand le second est arrivé.
Oui, c'était rien à voir. Mais oui, je dis que j'ai deux vies et là, ça s'exprime vraiment de façon très, très pratico-pratique, la différence qu'il y a eu entre les deux. Ne serait-ce que... Ouais, c'est des façons de voir la vie différentes, complètement différentes. Ne serait-ce que... Pour le premier, par exemple, je me rappelle d'avoir été acheter mes 36 000 gadgets, tu vois, et des machins chauffants et des machins qui brillent, qui sont des commandes vocales et des trucs et tout qui est neuf. Et on avait reçu énormément de cadeaux et tu vois, la maison, elle débordait de jouets avec lesquels il a joué 3 secondes. Et pour le deuxième, on n'a rien acheté, rien. Rien de neuf, en tout cas, rien de neuf. Donc, on a réutilisé, on a repris de l'autre, on a. Et rien de technologique, tout était en bois ou en laine. Donc, rien que ça, c'était vraiment un très gros changement. Une différence. L'autre grosse différence que j'ai sentie, c'est à la naissance même. Donc, moi, il faut savoir, j'ai un problème avec le sang, avec la vue du sang. J'ai la tête qui tourne. Je me rappelle.
Il y a pas mal d'hommes qui sont.
Ouais. On n'est pas les vrais guerriers d'antan.
Bah, on n'est plus. Oui.
ce qui est bête, c'est que je voulais être médecin quand j'étais petit. Et puis ma mère m'a un jour expliqué, tu sais, quand il faut être. Quand t'es médecin, tu ouvres avec un scalpel le ventre des gens et tout. Et là, j'ai un peu compris que c'était plus pour moi. Et donc le premier, il était dans un environnement hyper médicalisé, ma femme couchée, les jambes en l'air, des électrodes partout qui mesurent le machin. Moi, j'étais, en tant que bon ingénieur, à l'époque, j'étais focalisé sur les courbes. Tu vois, il y avait les courbes
des contractions.
Et à chaque fois, je mesurais le temps qu'il y avait entre les deux. Et je lui disais, attention, maintenant, on arrive au pic. Voilà, maintenant, ça ne va pas aller plus haut. Donc, ce que tu souffres là, c'est le max. Et ça, ça la rassurait beaucoup. Et puis, ça redescendait. Et donc, j'étais vraiment dans un truc qui était très pratique, qui était très peu spirituel pour un moment qui était vraiment, à mes yeux, très aseptisé. Et par exemple, la dame, la sage-femme, une fois qu'il est né, elle vient, elle se retourne vers moi. Non, sans se retourner, elle prend le bébé. Est-ce que le papa veut couper le cordon? Et puis elle se retourne vers moi et elle voit que je suis blême. Elle dit, oh, est-ce que quelqu'un a une chaise pour le papa? J'étais totalement incapable de faire quoi que ce soit là. Alors que le deuxième, on a été dans un environnement qui était... c'est un endroit à Bruxelles, il y en a plusieurs. Il y en a deux, trois comme ça où c'est au sein d'un hôpital tout à fait normal, mais il y a une cellule de naissance naturelle. Et là, il y a des cordes qui sont attachées au plafond pour que la femme puisse se tenir sans devoir se coucher. Il y a des bains, des grands bains où elle peut se baigner, enfin voilà, se relaxer entre les contractions. Et on nous a laissé totalement seuls déjà. Donc il n'y avait pas un médecin, il y avait la sage-femme qui avait suivi Valérie pendant tout ce temps-là, mais il n'y avait personne d'autre et voilà, elle avait été suivie, on l'avait un peu coachée au début, on lui avait expliqué comment ça allait se passer, mais après, c'est à nous deux, quoi. Et donc j'étais totalement dans le truc, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus, c'était beaucoup plus du co-travail,
ouais.
Un co-travail de mon côté plutôt cool, parce que j'ai pas à souffrir ouais. Le martyr comme elle, mais co-travail quand même, tu vois, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus de fusion de nos énergies, de allez vas-y, il arrive. Et puis quand il est arrivé, et c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est que il est sorti, je l'ai vu sortir, et je l'ai pris dans mes bras et j'ai pas eu de problème avec ça, quoi, tu vois. Parce que j'étais complètement dedans et quand je l'ai pris, j'ai pleuré avec lui dans mes bras et c'était vraiment une très forte émotion. Il y avait pas cette distance.
Ouais.
Qui avait été mise par les protocoles, par les... Et ce que disait la sage-femme à Valérie, c'est que c'est l'action primordiale qui a été le plus fait de l'humanité. Donc, elle a tout en elle pour le faire. Que, voilà, c'est une force que l'on porte, c'est la force de la vie. Et qu'il n'y a, voilà, y a pas de raison d'avoir peur. C'est chouette de le faire dans un hôpital quand même, hein,
oui.
Évidemment. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent.
Oui, puis vous avez les deux côtés, c'est ça. C'est-à-dire qu'il
ouais,
y a l'aspect naturel et en fait, si jamais ça se passe mal, t'as l'hôpital juste à côté. Donc c'est plutôt cool.
Ouais, dans les séances d'info par rapport à ça, ils nous disaient la naissance naturelle et la naissance chez soi, ok, mais alors pas chez soi à 60 km du centre le plus proche un hiver où les routes sont enneigées. Rester quand même dans le matériel et dans les risques qui sont inhérents quand même.
Et toi, comment c'est quoi les différences que tu as vécues aussi entre ces deux paternités un peu plus tard, je veux dire, comment tu les as appréhendées, est-ce que tu les as appréhendées différemment déjà?
Ouais, très très différemment. Parce que la première, elle est partagée. C'est pas. Et ça, pour moi, ça a été un travail énorme.
Elle est partagée. Ah oui.
Oui, c'est la garde. La garde est partagée. Oui, ma paternité n'est pas partagée, mais la garde est alternée. Et donc, ça, déjà, ça a été une déchirure pour moi. Et donc, qui m'a rappelé. J'ai fait énormément de travail sur moi avec cette paternité-là. Tout mon livre, Matin Clair, parle de ce transgénéalogique, de ces blessures transgénérationnelles et de mon père que j'ai perdu, qui est mort de façon tragique alors que j'avais 30 ans, très peu avant de faire naître mon premier enfant. Et donc pour moi, tout ça était extrêmement lié. Il y avait le fait de perdre mon père et puis très peu de temps après, de ne plus pouvoir être père à temps plein. Et donc de ne pas vouloir infliger à cet enfant l'absence du père. Et donc c'était, c'était très douloureux pour moi. alors que c'était mon choix, ça a été mon choix premier, de quitter cette vie qui ne me correspondait plus. Mais les conséquences ont été terribles pour moi, enfin pour sa maman aussi, enfin pour tout le monde. Mais et je ne le regrette pas, tout a été fait de la meilleure façon possible. Mais j'ai énormément travaillé sur moi, cette question de la paternité. Qu'est-ce que
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ça signifie pour moi. Et pourquoi je ressens cette douleur si fort, si forte? Parce que finalement, forcément, j'étais suivi aussi par une psy pour ce changement de vie. Voilà, je vivais énormément de choses en même temps, et pour ce deuil de mon père, cette nouvelle paternité, on a beaucoup travaillé cette question-là. Et au final, elle me disait des trucs très rationnels, du genre, il y a des mecs qui voyagent énormément et qui voient leur enfant moins que toi, en fait. Et toi, quand tu le vois, tu as tout fait pour que cette semaine-là, il soit, voilà, tu sois 100% présent à lui, donc c'est des moments de qualité et tout. Et néanmoins, cette blessure, elle était là. Et donc, ça a été un gros travail, un gros challenge. J'avais fait un post Instagram sur les larmes que je ressentais quand il partait, après avoir passé sa semaine chez moi. Et d'une certaine façon, je me demandais, est-ce que c'est pas un entraînement que je fais à petite dose de le laisser partir, en fait, avec le temps. Et j'ai trouvé ça assez beau, finalement, de sentir cette douleur que ressentent tous les parents lorsque leur enfant quitte leur lit. Et qui est notre rôle, de l'offrir au monde, cet enfant, justement, qui est la chose la plus saine à faire, de l'offrir, le partager, le préparer, lui faire confiance pour qu'il puisse partir et faire son monde à lui.
Lui offrir la liberté qui va avec aussi, c'est-à-dire de le faire en toute liberté, quoi, sans avoir de chaîne qui soit liée à papa-maman d'une manière ou d'une autre, quoi.
Ouais.
Le plus possible, en tout cas.
Oui, il faut être très fort. Je suis très sensible à ça, du coup, depuis, quand je vois ces parentalités ou maternités aussi, qui sont vraiment très accaparantes, comme ça, qui retiennent, qui veulent protéger, surprotéger... moi, mes enfants, tous les matins, en allant à l'école, ce que je leur dis, c'est prends des risques. Prends des risques, sois heureux, amuse-toi. Ça, c'est ce que je dis le matin. Et puis, à côté de moi, je vois la dame qui dit à sa fille, fais attention. Fais attention à ci, prends pas froid, fais attention à ça. Et c'est un livre de Suzanne Jeffers qui m'avait donné cette idée. Elle disait dans son livre, on me pose tout le temps la question, comment ça se fait qu'on ait des gens, des personnes aussi, avec aussi peu de confiance en nous. Elle dit, mais vous vous rendez compte comment on nous parle depuis qu'on est tout petit, nos parents, fais attention, il y a des risques, fais attention à ci, à ça. Qu'est-ce que ça véhicule, ça, comme énergie? Enfin, même sans parler d'énergie, de mots, ça véhicule un monde qui est dangereux. De un, ça véhicule un monde qui est dangereux, et de deux, encore plus important, encore plus grave, ça véhicule un monde qui est dangereux et dont tu vas pas être capable...
Donc il faut avoir peur quelque part.
Ouais, et tu vas pas être capable d'y faire face. Parce que si c'était dangereux et que tu voyais bien, et que le parent voyait bien qu'il est hyper fort, il aurait pas peur pour lui. Et donc le fait de faire attention, hein, ça montre qu'on fait pas confiance à notre enfant. Et de là notre manque de confiance plus tard. Et moi je leur dis tous les matins et ça effraie mes copains. Je leur dis prends des risques. Aujourd'hui tu vas prendre des risques et tu vas t'amuser.
Pourquoi ça effraie tes copains?
c'est pas dans les normes, tu vois. Dire à un enfant prends des risques, tout de suite tu t'imagines que le gosse, je sais pas moi, il va traverser sans regarder, traverser la rue sans regarder, il va sauter d'un troisième étage, alors que là tu l'envoies quand même à l'école, tu vois, tu l'as, c'est un peu comme c'est un peu comme cette comme donner naissance naturelle mais dans un hôpital, tu vois. Tu prends des risques mais ils sont hyper contrôlés, voilà, c'est exactement c'est un beau parallèle, parce que à l'école tu lui dis prends des risques, mais qu'est-ce qu'il va prendre comme risque? Il y a 300 professeurs qui le... enfin il y a quelques professeurs qui l'observent, il y a des surveillants, les risques ça va juste être oser dire à une petite fille qu'il l'aime bien, ça va être oser répondre à la question au tableau. Voilà, c'est, ça reste quand même pas super effrayant.
Et t'as la sensation aujourd'hui que ce chemin, que ton chemin de vie en fait a éclairé d'une certaine manière aussi ta paternité?
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour le deuxième, je crois que la paternité a été du coup beaucoup plus apaisée. Tu vois, le premier, j'ai fait tout ce travail transgénéalogique, tout ce travail de deuil, voilà, les enfants en fait, ils sont pas à nous, ils sont leur propre vie, ils sont à eux-mêmes, ils sont au monde.
C'est dur ça aussi, parce que ça renvoie ta propre image de père digne, quoi, tu vois, de bon père.
Ouais, j'ai
qu'est-ce
dû
que ça veut
énormément...
dire un bon père aujourd'hui? C'est tellement compliqué.
J'ai dû énormément déconstruire de ça. Venant d'une famille assez traditionnelle, espagnole, mon père, que j'adorais, c'était vraiment le père de famille qui portait à la fois le seul travail... qui portait le sérieux, le garant de l'éducation. Il était prof. C'est grâce à lui qu'on a été à Bruxelles. Il était devenu prof à l'école européenne. Il portait énormément. Il portait terriblement de choses. Et je me souviens de lui comme quelqu'un qui était qui adorait la vie, mais qui était vraiment fatigué, quoi. C'était vraiment un bon vivant, mais un bon vivant fatigué. Vraiment, il portait tellement. Et donc... moi, j'ai vécu ça hyper fort avec mon premier, parce qu'en plus, j'avais pas la paternité complète, quoi, tu vois. Donc, et ce qui est encore un peu plus... et je vais quand même raconter ça, même si c'est un peu rentré dans les détails, mais sa maman ne voulait pas qu'on ait la garde alternée 50-50. Et donc, après beaucoup, j'ai jamais voulu passer par les tribunaux, mais après beaucoup énormément de discussions, énormément de médiation avec des médiateurs, des trucs comme ça, on est arrivé à du 9-5. Donc c'est 9 jours elle, 5 jours moi pendant l'année, et puis les congés en 50-50, tous les congés en 50-50. Quand tu fais la moyenne de tout ça avec tous les congés qu'il y a sur une année scolaire, on arrive à 45%, 55%. C'est vraiment pas beaucoup comme différence. Et pourtant, ça m'arrachait la gueule, quoi. C'est 5% de différence. Et j'ai vraiment dû faire un travail sur moi de me dire, c'est quoi qui m'arrache tellement de pas avoir les 50-50? Est-ce que je suis en train de me battre pour le bien de mon fils, ou est-ce que je suis en train de me battre pour des trucs qui me dépassent, qui viennent de... Qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon père? Ça veut dire d'être là le maximum, ou en tout cas d'être autant... C'est aussi important qu'une mère, quoi. Pour moi, à mes yeux, un père et une mère, c'est aussi important l'un que l'autre. Et puis, à un moment où j'ai dépassé ça, je me suis dit, voilà, il y a ce qui est rationnel, il y a ces chiffres, et puis il y a le cœur. Et mon fils, il a compris que je pense, en effet, qu'un père vaut une mère, mais qu'on n'a pas besoin de se chamailler, surtout si, en plus, ça va amener des...
Si ça vient
habiter.
Si ça vient abîmer la relation, quoi.
Ouais, mais donc, ouais, pareil, avec mon travail, tu vois, j'ai mis ma famille en priorité, j'ai laissé de toute façon tomber ma carrière, parce que c'était des concepts qui, au-delà de la paternité, voilà, en dehors de tout ça, ça me parlait pas. Et le deuxième, il est arrivé dans un foyer qui avait déjà fait tout ça, tout ce bordel était fait. Enfin, ça continue à être le bordel, on est d'accord, hein, c'est organique, et il y a des cycles, et voilà. Mais, Voilà, lui, par contre, son travail à lui, c'est de vivre avec un frère qui est là, qui n'est pas là tout le temps.
Et le grand, lui, comment il vit aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'il est un peu plus capable de le verbaliser aussi. Comment il vit cette paternité partagée, cette paternité à mi-temps?
Il le vit bien.
Ouais.
Il le vit bien, il est épanoui, il est beaucoup plus réservé que le petit. Le petit va être capable de verbaliser des trucs très subtils, de façon très, très facile, et donc on sait tout de suite où il se situe et ce qu'il en pense. Le grand, il est plus réservé, il est plus à lui, mais tu vois que ça lui convient bien. Il est, et même à un moment donné, on lui a demandé son avis, vraiment récemment, parce que je voulais pas l'immiscer dans ce choix qui était le choix de parents du partage. Et il disait que voilà, qu'on lui fout de la paix, que lui il veut pas trop. Voilà, en effet, c'est notre problème, et que lui, comme ça, il est bien. Ouais. Et que...
Ouais, à 14 ans, c'est vraiment l'âge. C'est le pire âge, hein, où t'es plus tout à fait enfant et t'es pas encore tout à fait ado. C'est vraiment.
Et il est très loyal entre les deux. Je crois que c'est surtout ça. Tu vois, il est loyal envers nous deux. Il veut surtout pas nous froisser aucun des deux. Et c'est là que j'aimerais qu'il soit totalement libre. C'est ça que je. Enfin, mon prochain challenge, c'est vraiment d'avoir un enfant qui est totalement libre après avoir passé une vie où il voyait bien qu'il devait faire plaisir à deux parents, de lui dire que maintenant, c'est lui qui sait, quoi. C'est lui, un peu comme j'avais dit dans mon discours à ses étudiants, c'est lui qui sait, c'est lui qui doit choisir, et maintenant, c'est lui qui doit regarder ses propres choix.
Comment tu vas faire, ça?
J'ai aucune idée.
Moi, je suis en plein dedans, c'est dur. Hein.
Ouais.
Avec mes deux ados, là, c'est très, très dur à faire. Parce que ça passe aussi beaucoup par toi, ça passe aussi beaucoup par la façon dont, par ta posture, tu vois, de père. Mmh. Et faut parfois, faut laisser aller, quoi, tu vois, comme tu dis, prends des risques, juste, va te planter la gueule, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça, faire confiance.
C'est pas facile de dire à ton môme, enfin, de voir ton môme qui est en train d'aller se planter la gueule et de le laisser aller, quoi, tu vois, c'est pas fastoche.
Ouais, je crois que c'est un mélange de nommer les choses, vraiment de lui dire un peu comme, tu vois, ce combat que j'ai fait avec sa mère de l'avoir à 50-50, à un moment donné, il a quand même fallu nommer les choses, voilà, mon fils, sache que si je veux absolument que tu sois à 50 chez moi, c'est parce que je pense qu'une mère et un père, c'est équivalent. Et je peux pas laisser passer le fait que tu penses que c'est ok pour moi de passer plein temps avec sa mère et qu'on a besoin de plus d'une mère qu'un père. Donc maintenant que je te dis ça, sache que je vais quand même aussi faire le choix d'arrêter de me battre pour ça parce que je vois bien que c'est délétère. Donc maintenant que tout ça est nommé, vivons-le, quoi. Voilà. Maintenant que tu sais, on le vit, et sache que je vais essayer que ce soit le plus en harmonie possible, mais c'est pas pour autant que je pense que tu peux passer le plus de temps avec ta mère qu'avec moi. Et je vais tout mettre en place pour que justement je puisse être accessible autant qu'une mère, quoi.
C'est très précieux comme conseil, ça, je trouve, hein, d'aller voir tes enfants et de leur dire, tu vois, de leur dire ton intention et ce que t'as envie de faire, quoi.
Ouais.
Dans ces moments-là.
Et c'est de dire l'intention sans la forcer. Tu vois, pareil pour, comme pour ta question, pour la suite, comment est-ce que tu dis ça? Tu le nommes, je lui dis, voilà, maintenant tu as 14 ans, le but c'est que tu fasses tes propres choix. Nous, on a été des guides jusqu'ici, mais maintenant tes choix, c'est toi qui commences à les prendre. Ça, c'est nommé. Et puis vivons ça. Dans la réalité, il y a la théorie, c'est celle-là, et puis il y a la vérité, c'est que parfois, je vais essayer de ne pas te forcer, mais parfois, je vais quand même devoir te rappeler, mec, prends une décision. Il y a souvent des moments où il vient me dire, « Ouais, mais maman, elle m'a dit, ouais, quoi, mais toi, tu veux quoi, en fait ? Tu te rappelles, je t'avais dit ?» Donc, essaye, voilà, il y a les deux, quoi. De laisser la liberté tout en lui posant le cadre des mots.
Et je trouve que c'est d'autant plus dur à faire quand... t'es pas forcément, alors tu peux être sur la même logique éducative avec le coparent, tu vois, mais quand il y a vraiment beaucoup de choses qui vous séparent, c'est dur, hein, parce que t'as vraiment, de ce fait-là, ça lui montre aussi les deux modèles différents.
Ouais.
Mais
ça, c'est dingue,
quand t'as un gamin qui est, comme tu dis, loyal aux deux, il est vraiment le cul entre deux chaises, ça doit être terrible. Hein.
Oui, ouais, ça, c'est ça, et c'est pour ça que c'est la question qui, moi, me taraude en ce moment, c'est que il va pas pouvoir être loyal aux deux toute sa vie, parce que les deux, ils sont opposés presque. Elle est restée cadre supérieur dans une multinationale pharmaceutique. Et nous, on est dans un modèle de décroissance, de pas utiliser le moins possible les énergies fossiles, presque de militance, en tout cas de co-construction de nouveau monde, quoi. Et lui, il est dans le... tout nous oppose. Nous, on est en ville, mais près de la forêt. Elle est dans un mode rural plutôt avec grande villa. Nous, on a des jobs plutôt modestes dans le social. La richesse, la façon d'observer le monde sont vraiment différentes. Et c'est génial, et c'est ça que je disais, à quel point ils sont fluides, c'est que pour lui, ça, c'est la réalité. La réalité, pour lui, c'est deux mondes complètement différents qui se côtoient. Pour lui, je pense pas qu'ils s'affrontent, parce que entre sa mère et moi, on s'est jamais engueulé, on discute beaucoup, et on n'est pas d'accord sur beaucoup, mais voilà, c'est pas la guerre. Et donc, il voit que c'est possible de vivre les deux, que les deux existent en tout cas. Mais je me dis, il y a quand même des fois où il va quand même devoir choisir... Et faire des choix, des actes.
Ouais.
Est-ce que j'accepte de prendre l'avion 10 fois par an ou pas? Est-ce que j'accepte de conduire en 4x4? Je sais pas, des trucs qui sont antinomiques, quoi. Il y a des moments où et c'est là que je veux vraiment lui dire, parce que ça pourrait faire des étincelles dans son cerveau, hein, tu vois, de dire merde, mais qu'est-ce que je fais, j'ai été loyal aux deux, maintenant il y a pas de voie du milieu parfois, tu vois, il y a pas de compromis possible parfois
sur ce sujet-là. Le milieu, il est dur à, enfin, il y a une sorte de juste milieu de nuance qui est dur à trouver, quoi.
Ouais, le tout, ça va être de lui dire de faire sa propre sauce, quoi, qu'il soit capable de la faire.
T'es confiant?
Ouais, parce que jusqu'ici, comme je te dis, il est hyper fluide. C'est vraiment marrant. Il a jamais, de toute sa vie, il a jamais contraposé l'une pratique par rapport à l'autre. Jamais il a dit, ah, c'est marrant, maman, elle fait je sais pas quoi, et ici, c'est autrement. Jamais. Vraiment, pour lui, voilà, il fait un truc chez elle, un truc chez nous, et c'est sa vie, c'est vraiment comme ça. Ça ne coince pas, ça n'est pas choquant, ce n'est pas antinomique, c'est deux vies, je suis confiant, et à la fois il y a un moment où ça devient sa propre vie, tu vois, là sa vie, elle est compartimentée temporellement d'un côté et de l'autre, et il y a un moment où lui, il aura sa propre vie à lui, il va s'émanciper, et qu'est-ce qui va rester de chacun des deux?
Comment tu...
C'est son choix.
Ça, de toute façon. Mais je trouve que c'est dur parce qu'on ne nous éduque pas en tant que parents. Enfin, déjà, on ne nous éduque pas en tant que parents. Mais on nous éduque encore moins à appréhender ce genre de sujet, quoi. Donc,
ouais.
c'est pas du tout évident. Comment tu appréhendes justement ton rôle d'enfant adulte, tu vois, de grands enfants? Tu te projettes déjà là-dedans, en tant que père?
J'ai pas compris la question.
Est-ce que... Comment... je vais la reformuler.
Est-ce que vous pouvez répéter la question?
Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que tu te projettes dans ta vie, une fois que, par exemple, ton grand, il aura 18 ans, qu'il sera parti, il fera je sais pas quoi de sa vie. Est-ce que tu as la sensation que forcément ton rôle va changer? C'est un truc auquel tu penses déjà?
Non, okay. Non, c'est pas quelque chose. Je trouve que c'est déjà tellement riche maintenant. Je pense que C'est pas dangereux, mais en tout cas, c'est très compliqué de se projeter loin. On est vraiment dans un monde qui change tellement vite. Et dans des directions tellement différentes et inopinées. Tout peut être tellement d'une façon et de son contraire que j'essaie de faire vraiment au instant présent, vraiment. C'est peut-être un peu fleur bleue, un peu cliché, mais j'essaie vraiment d'appréhender les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Et ils sont déjà hyper riches et hyper intéressants avec ces deux enfants qui sont chacun des univers à eux seuls. Donc je m'étais encore jamais posé la question de comment je serais quand c'est des vrais hommes, quand c'est des adultes et qu'ils... voilà, et qu'ils habitent chez eux, et que... Non, je sais pas.
Ok. J'ai une question à la fin de mon podcast, j'aimerais te la poser.
Oui.
Imagine justement que... Bah, on peut faire un message pour chaque fiston, mais imagine que tes deux fistons écoutent ce podcast dans 10 ans.
Ouais, donc l'un a 24 et l'autre 16.
Qu'est-ce que t'as envie de leur dire séparément ?
Que je suis fier d'eux. Ça, c'est quelque chose que je leur dis peut-être pas tous les jours, mais je leur dis que je suis fier d'eux, qu'ils ne doivent pas me rendre fier, tu vois. Ça, c'est pour moi un des risques. J'ai vraiment, comme je te disais, envie qu'ils vivent leur vie, qu'ils fassent leur choix pour eux-mêmes et jamais pour moi. Et que les délester de le plus de fardeaux possible. La vie est déjà tellement... complexe, le chemin qu'on va devoir faire en tant qu'humain, toute notre vie, le travail de toute une vie, de grandir en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'adulte, en tant que terrien, ça va déjà être, ça va prendre énormément d'énergie, j'ai envie de les délester des poids dont ils n'ont pas besoin par rapport à moi. Tu vois, le transgénérationnel que moi j'ai fait pour moi, je sais déjà en le faisant pour moi que déjà automatiquement ça se fait pour eux, mais j'essaie de le nommer aussi. Je suis fier de toi. Jamais je ne le serai pas, quoi que tu fasses. Je suis fier parce que tu es, pas pour ce que tu fais. Donc jamais tu pourras me décevoir. Et donc dans 10 ans, je serai tout aussi fier. Je suis sûr que je serai fier de toi, quoi que tu aies fait. Tu n'auras pu rien faire qui me change de cet amour inconditionnel. Et j'espère que tu as trouvé ta place, que tu as, en tout cas, que tu es en route, quoi, que tu es en chemin, que vous êtes tous les deux en chemin, et que ça va pas trop mal. J'espère juste que c'est pas trop la galère, et que c'est riche, et que même si c'est la galère, au moins que c'est riche, quoi, qu'il y a une forme de joie dans cette galère.
Le plus petit, il aura 16 ans. Tu l'auras encore à la maison.
S'il aura 16 ans, j'espère qu'il ne sera pas trop la galère pour moi, que ce ne sera pas lui la galère, ma galère. Non, le petit, le petit jeu à 16 ans, ouais, il sera encore avec nous et j'ai vraiment tellement confiance. J'ai envie de lui dire que ça va être un moment difficile, particulièrement difficile. Ça va être difficile pour tout le monde, mais à 16 ans, ça va vraiment être particulièrement difficile parce que ça allait pour tous à ce moment-là. Et vraiment, encore un truc un peu cliché, mais ce mantra bouddhiste zen de tout finit par passer, de tout passe. Ça, pour l'adolescence, si on me l'avait dit, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Tout passe. Vraiment, t'as beau te sentir une merde, ça va passer. T'as beau te sentir le mec le plus populaire du lycée, ça va passer aussi.
C'est clair.
Vraiment. Et quand ça passera et que tu te sentiras à nouveau une merde, bah, tu te dis que ça va passer. Et vraiment, de vallée en vallée et de mont en mont, on s'améliore, on vit, on tisse des liens. Mais c'est important de se rendre compte que de ne pas s'appesantir sur chaque mauvaise phase. Et 16 ans, ça va être compliqué, ouais.
Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené dont t'aurais aimé parler dans ce podcast?
Non, je sais pas. Pas comme ça.
Ok. Merci beaucoup, Pedro.
Merci à toi, Fab.
C'était vraiment génial. Merci.
Super, merci à toi.
C'était vraiment très cool. Je vais mettre dans les notes de cet épisode un lien vers ton Insta.
Ouais.
C'est l'endroit où on peut te contacter le plus simplement, c'est ça?
Ouais.
Ok. Et puis, vers ton bouquin et vers tout ton travail d'une manière générale, je renverrai tout ça.
Super.
Pour retrouver.
Ben, merci beaucoup.
C'est top. Merci à toi.
Merci, à une prochaine.
Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.